Muteki, une heure de J-Rock et de J-Pop avec Damien et Romain. Que des mecs en un, mais ils sont deux.
Rémi, Maïnègre, alors ça se prononce Maïnègre?
Oui, ça, c'est catalan, donc ça se prononce Maïnègre.
Alors donc avec Sandrine Garcia, vous avez raconté ce qui est votre voyage de noces au final. Alors ça, c'est un livre qui s'appelle Voyage au Japon, tome 1, Tokyo, avec une graphie. C'est pas des photos de Tokyo, c'est pas de la carte postale, ou alors c'est de la carte postale fantasmée, quoi.
C'est un carnet de voyage, mais j'ai pas dessiné sur place. J'ai dessiné un petit peu sur place. Dans le livre, on a mis des extraits de mon carnet, mais c'est pas possible de dessiner sur place parce que le Japon, t'as envie de dessiner tous les 50 cm. Donc tu te dis, ok, on a à 3 semaines, 1 mois. Dans 3 semaines, 1 mois, j'ai fait 2 rues. Donc tu prends des photos et puis tu te dis, je dessinerai peut-être a posteriori. Puis au demeurant, c'était notre voyage de noces. Donc j'ai pas dans l'idée de faire un livre du tout. Hein. Donc on est parti en voyage de noces, on s'est éclaté. Puis l'idée du livre est née bien plus tard.
Et ça a germé comment cette idée alors d'en faire justement un bouquin?
L'idée du bouquin est venue en fait juste à cause du blues. Parce que quand tu reviens du Japon, t'as un énorme blues, les gens sont gentils là-bas, tout est très calme, et puis tu reviens, tu fais 3 mètres à l'aéroport, tu te fais insulter, marcher dessus, tu vois, c'est pas du tout sympa. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai quitté ce pays qui était si calme, si agréable à vivre? Et le seul moyen de repartir en voyage quand t'as plus un flush, c'est de dessiner. Parce que quand tu dessines, tu voyages, tu retournes sur les lieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des illustrations que je postais sur le forum du Café Salé. Et face aux illustrations, j'ai eu du répondant. Il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont dit « mais c'est super, on en veut d'autres », tout ça, etc. Et petit à petit, il y a eu une audience qui s'est créée. Et à un moment donné, au bout de la 20e ou la 30e illustration, je me suis dit « mais où est-ce que ça nous mène ?» Et il faut faire quelque chose avec. Et puis on s'est dit « tiens, on va en faire un carnet de voyage ».
C'est facile de contacter des éditeurs justement quand on se dit je vais faire un... Alors évidemment c'est porteur le Japon puisque c'est tendance en quelque sorte, mais sauf que qu'est-ce qu'on dit justement à un éditeur pour le convaincre de publier le livre et de le mettre en forme?
On lui montre ses dessins et j'ai pu convaincre très peu d'éditeurs finalement. Vraiment, les éditeurs sont très frileux, tous les dessins ne sont pas dans le même style, un coup j'ai de l'encre de Chine, un coup j'en ai pas, un coup c'est de l'aquarelle, un coup c'est ci, un coup c'est là. Tous les motifs sont bons pour plus ou moins refuser parce qu'on te dit que le carnet de voyage est en perte de vitesse, tout ça, que ça se fait plus. Et finalement, après avoir accroché plus ou moins 2 éditeurs qui ont été frileux, en définitive, on s'est aperçu qu'avec le Café Salé, qu'on connaissait depuis très longtemps, Sandrine et moi, puisque ça faisait des années que je postais dessus, qu'eux étaient intéressés et qu'ils n'avaient pas compris. Ils pensaient qu'on avait déjà un éditeur, donc il y a eu une espèce de quiproquo. Quand on a réalisé qu'on pouvait travailler ensemble, on s'est dit « mais on va le faire ». Et au demeurant, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Le Café Salé a été les seules personnes qui ont eu un petit peu les tripes, tu vois, et ils se sont donnés à fond pour pouvoir faire naître le bouquin.
Donc du forum, c'est passé au... Alors vous avez jamais quitté le Café Salé en quelque sorte?
Non, j'ai jamais quitté le Café Salé, puis je m'y sens bien. C'est une petite structure, mais c'est des gens avec qui on peut parler directement, contrairement à beaucoup de grosses maisons d'édition, parce que j'ai l'expérience des rencontres avec les gros éditeurs, et c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui a vraiment le pouvoir de dire « ok, très bien ». Il faut apporter beaucoup de garanties, et ils veulent vraiment zéro risque. Et donc ça, c'est pas forcément des conditions qui sont très agréables, parce que très vite on te dit non, ou alors les gens te promettent des choses et puis derrière on leur dit non.
Vous êtes vous-même écrivain ou...
Non, moi j'écris un petit peu, mais en fait je suis essentiellement dessinateur. Il se trouve que le carnet de voyage est sorti en premier, mais ça fait déjà plusieurs années que je fais des projets de bande dessinée qui maintenant vont naître du coup, puisqu'on a mis le pied dans la porte. Et c'est ma femme qui a écrit les livres, donc c'est vraiment un travail à deux. Enfin, elle écrit souvent des scénarios pour moi, et puis on a tenu un carnet de bord, et c'est elle qui a fait l'essentiel des textes.
Donc c'est édité par le Café Salé, on le rappelle. Et alors, je vais rentrer un petit peu dans le livre, parce que tu dis que c'est un pays calme, en opposition à ce qu'on a comme accueil à Roissy-Charles de Gaulle, mais c'est quand même un pays qui vit à 1000 à l'heure. Est-ce qu'on retrouve ce Japon survolté, ce Japon complètement en surchauffe qu'on peut avoir justement quand on est là-bas?
Ouais, complètement. En fait, on ne s'instaure pas en professeur du Japon là, mais on fait que constater ce qu'on a vu, et le Japon c'est toujours un choc. L'aéroport est un choc. C'est pas du tout comme tu t'y attends, t'as l'image romantique et tout, l'aéroport c'est un gros bloc de béton, tu mets 2 heures à en sortir, passer les contrôles, mettre tes empreintes digitales, tout ça, donc c'est déjà un choc doux, mais un petit peu violent doucement, tu vois, donc c'est bizarre. Et puis quand tu sors, Et c'est l'erreur qu'on a commise d'ailleurs, on s'est retrouvé dans ce Japon à 1000 à l'heure dont tu parles tout de suite. Donc après 16 heures d'avion, c'était un petit peu pas l'endroit où il fallait aller.
On est allé,
voilà, on passe d'un extrême à l'autre. On n'a pas du tout commencé par l'aspect calme et zen du Japon. On s'est retrouvé dès le premier jour à Shinjuku pour chercher un appareil photo que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, j'ai trouvé le lendemain. Mais on s'est noyé dans tous ces kanji, ces kana, toutes ces lettres qu'on ne comprend pas, tout cet univers. On rentre dans des magasins qui sont 10 fois les mêmes enseignes, à 4 mètres les uns des autres. Et puis on a vraiment vécu le côté cauchemardesque, tu sais, du rêve où tu essaies de sortir d'une pièce, tu ouvres une porte et tu re-rentres dans cette même pièce et que tu ne quittes jamais, ainsi de suite. Et c'était un petit peu cette impression-là. Donc on a vécu ce Japon un peu bruyant, un peu rapide, un peu et qui malgré tout a une certaine fluidité, et qui est bruyant, qui est rapide, qui est une forme de stress aussi, mais pas la même que chez nous. Et en même temps, à quelques mètres de là, tu passes quelques petites rues et d'un coup tu tombes sur un tout petit temple où il n'y a personne qui passe, qui est très calme. Et là d'un coup tu as complètement l'inverse. Et le Japon, c'est le pays des paradoxes et de l'inverse. Tu peux dire tout et son contraire en l'espace de quelques mètres, de quelques secondes. Tu as le magnifique et le très moche à côté, et ça donne quelque chose de beau, ça donne un drôle de mélange en fait.
Donc pour ça, il va falloir diviser le livre en plusieurs parties. Alors ça commence par Tokyo, qui est déjà un monde en soi. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? Quel a été votre voyage, si c'est la question en filigrane?
Le projet comportera 3 tomes. Là, le tome 2 va sortir au premier semestre 2012, sans doute. Je suis en plein dedans, là, et il est consacré à un endroit qui s'appelle le Koyasan. Le Koyasan, c'est le lieu d'introduction du bouddhisme Shingon au Japon, qui est une des majeures sectes bouddhistes. Et concrètement, c'est un espèce de village de temple qui fait à peu près 6 km², donc c'est pas très très grand. Il y a quelques 120 ou 130 temples là-bas, et le plus grand cimetière du Japon aussi. Donc c'est un endroit très mystique, très particulier, avec une atmosphère très différente de Tokyo, avec des arbres de 40-50 mètres de haut au sommet d'une montagne paumée au sud-est d'Osaka. Et donc voilà, on a passé 3 jours là-bas, ça nous a bouleversés. Et le 3e tome sera sur Kyoto, parce que c'était quand même l'essentiel aussi de notre voyage. On a passé 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, là-bas, et on a aussi essayé de vivre, et c'est encore une atmosphère différente.
Je continue sur le thème du voyage, du transport, justement, parce que ce qui lie les pages entre elles, ce sont, alors, pour Tokyo, les lignes de métro. Dans un certain sens, c'est évident, donc la question en soi, elle n'est pas très bienvenue, mais après, ce sera quoi? Ce sera les lignes de train qui permettront, ou alors les listes de temples qui permettront de faire le lien? Qu'est-ce qui va faire justement le lien dans les prochains bouquins?
Déjà, le 2e tome, pour Koyasan, on garde le fil conducteur du train. Le train, c'est une forme de voyage aussi, c'est un déplacement, donc ça fait partie intégrante, tu vois, pour aller à Koyasan. Tu passes par Osaka, puis au fur et à mesure, tu prends de plus en plus de lignes, mais petites, tu vois, et tu rentres dans des petites gares qui sortent tout droit du studio Ghibli, et c'est extraordinaire. Donc on a gardé le train quand même, et ce transport-là. Puis effectivement, sur place, après, tout est à pied. Donc tu fais tout à pied, mais tout est lié, tout est tellement à côté que de toute façon, il n'y a qu'à suivre. Il n'y a pas de ligne de métro à Koyasan.
On revient à Tokyo, justement, voilà, là où il y a des lignes de métro. Avec d'autres bouquins qui parlent de Tokyo, il y a beaucoup, énormément de livres qui parlent de Tokyo, dont un qui est sorti ces derniers mois, dont le tome 2 vient de sortir justement maintenant. C'est Parlez-vous le Framponnet, qui a été écrit par Florent Gorge. Alors c'est pas forcément la question pour savoir si tu l'as lu, mais c'est surtout, est-ce que toi tu te retrouves dans ce qu'il y a dans le... Déjà rien que le titre est déjà un résumé en soi. Est-ce que tu as trouvé beaucoup de Framponnet, voilà, d'espèces d'emprunt de la langue française un peu maladroite à Tokyo?
Oui, énormément. On en parle. On fait un article dans le tome 1, là, dans Voyage au Japon, sur le Framponnet. On a une expérience qui nous a fait vraiment énormément rire, parce que c'est vrai qu'ils n'ont aucune idée des mots qu'ils emploient. Donc ma femme a acheté un pull banlieue de Paris, par exemple, by concierge, tu vois. Donc c'est assez particulier. À Kyoto, elle a chevauché on avait acheté un vélo, elle a chevauché un vélo qui s'appelait Fromage, le choix. Et partout, tu trouves du framponnet comme ça, partout. Et c'est un petit truc drôle, parce que nous aussi, on fait la même chose en utilisant l'écriture chinoise et les kanji qu'on met n'importe comment. Ça doit bien les faire marrer. Ça a un charme, et ça ne fait que confirmer l'histoire d'amour qu'il y a un peu entre la France et le Japon, quoi.
L'histoire d'amour que tu trouves aussi au niveau humain, c'est-à-dire que toi, tu te présentes en étant français. Est-ce que c'est des Français, bienvenue, ou est-ce que c'est bon?
Ben non, c'est pas bon. Généralement, là-bas, tout le monde te prend pour un Américain d'office. Surtout, ben, moi, avec mon physique, je suis grand et plutôt blond. Et j'ai une gueule d'Américain un petit peu. Et dès qu'on dit qu'on est français, alors là, c'est formidable. Là, tu es français, ça t'ouvre des portes. Les gens sont accueillants, ils nous offrent le thé, ils nous montrent des petits... On peut partager des petits moments, des petits morceaux comme ça d'intimité ou de petits secrets du Japon, et ça c'est bien. Et on a droit à quelques paroles de la Marseillaise, les petits vieux sont adorés, enfin adorent vraiment le Japon et la France. Donc c'est très agréable d'être français et d'être touriste à Tokyo.
On rappelle, Voyage au Japon, tome 1, Tokyo, par Rémi Maynègre et donc Sandrine Garcia, merci beaucoup.
Ben merci.